aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Diriac et Claire Morin-Gibourg en direct de la capitale américaine, jeudi 7 mars 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
Des fosses communes ont été découvertes à Mondoro, au Mali. Une enquête est en cours.
Au Cameroun, la demande de libération immédiate de l'opposant Maurice Kamto a été rejetée par la justice.
Le cardinal Barbarin va présenter sa démission au pape suite à sa condamnation par la justice française pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre.
En Afghanistan, une nouvelle attaque au mortier a fait au moins 3 morts à Kaboul.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports dans un peu plus de 10 minutes. Mais d'abord, le journal.
Au Mali, les responsables d'associations Peul font état de charniers dans le cercle de Douenza, à 3 km du village de Mondoro. Les organisations Tabital et Kissal Poulakou affirment que 24 corps ont été exhumés, mais les autorités locales disent ne pas être au courant de l'existence de ces charniers. Kassim Traoré nous en dit plus.
Les faits remontent à la fin du mois de février dernier. Les corps découverts étaient tous identifiés comme des Peul. C'est pour cela que les associations de défense de la culture Peul affirment que les 24 corps découverts seraient des Peul enlevés il y a quelques jours dans la zone. D'après un responsable de Tabital Poulakou, qui a parlé sous anonymat, il affirme avoir été menacé plusieurs fois par l'armée. Je n'ai pu avoir le nombre exact des personnes découvertes dans les charniers. Les populations ont même peur de communiquer. Ils se cachent pour le faire, car un simple appel téléphonique peut leur coûter la vie, dit-il. Le préfet de Douanza, d'où relève Mondoro, dit ne pas être informé de ces fosses communes. La hiérarchie militaire basée à Bamako n'a pas non plus voulu réagir à ces accusations. L'Association malienne des droits de l'homme, quant à elle, affirme que des investigations sont en cours pour confirmer ou infirmer l'existence de ces nouvelles fosses communes. Il est à signaler qu'en 2018, des fosses communes avaient été découvertes dans la même localité de Nonkara, Nataga et Boulkesi, toujours dans la région de Mopti, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'Algérie vit toujours au rythme des manifestations contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Dans un message diffusé par l'agence officielle APS, le chef de l'État, officiellement hospitalisé en Suisse pour des examens médicaux, appelle ce jeudi à la vigilance contre une possible infiltration de l'actuel mouvement de contestation, susceptible, selon lui, de provoquer le chaos. Compte rendu, Jacques Aristide.
Le vent de révolte sans précédent en Algérie ne faiblit pas. Avocats et journalistes donnent également de la voix. Ils sont descendus dans les rues d'Alger aujourd'hui pour réclamer au Conseil constitutionnel d'invalider la candidature du président Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans.
Nous sommes fatigués. Le peuple est fatigué. Ça fait, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu d'autres présidents. Il est temps de changer les choses.
Dans son message écrit délivré à l'occasion de la Journée internationale de la femme du 8 mars, le chef de l'État algérien n'évoque pas le rejet de sa candidature, mais met en garde contre ce qu'il appelle une quelconque partie insidieuse.
Nombreux sont les haineux à l'étranger à regretter que l'Algérie ait traversé la déferlante du printemps arabe. Je vous exhorte aujourd'hui tous, et en premier lieu les maires, à veiller à la préservation de l'Algérie en général et de ses enfants en particulier.
Aujourd'hui encore, son directeur de campagne est venu nier toute dégradation de son état. La santé du président, dit-il, n'inspire aucune inquiétude et les examens qu'il a subis depuis plus de 10 jours sont bientôt terminés.
Au Cameroun, la demande de libération immédiate de Maurice Kamto a été rejetée par la justice. Le principal opposant au chef de l'État, Paul Biya, a été arrêté, ainsi qu'environ 150 personnes, à la suite d'une manifestation pacifique organisée dans plusieurs villes du pays le 26 janvier.
La riposte à Ebola en RDC ne parvient pas à maîtriser l'épidémie, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Médecins sans frontières. L'ONG impute cet échec à la militarisation de la réponse et au manque de confiance des communautés affectées. 7 mois après le début de la plus importante épidémie Ebola dans le pays, près de 900 cas ont été enregistrés, dont 563 décès.
Au Soudan, les peines de prison prononcées il y a une semaine à l'encontre de 8 manifestants anti-gouvernementaux ont été annulées par une cour d'appel d'exception. Ces condamnations étaient les premières depuis la mise en place la semaine dernière de ces tribunaux spéciaux qui enquêtent sur les violations de l'état d'urgence passibles de 10 ans de prison.
Aux Comores, l'entourage du président sortant, Azali Assoumani, a affirmé qu'il avait échappé aujourd'hui à une tentative d'assassinat sur l'île d'Anjouan. L'opposition a dénoncé un faux attentat. Azali Assoumani est candidat à sa propre réélection le 24 mars.
Un tribunal fédéral de New York a rejeté la procédure initiée par les tribus namibiennes Nama et Herero qui réclamaient réparation à l'Allemagne pour le génocide dont étaient victimes leurs ancêtres entre 1884 et 1915. L'Allemagne négocie actuellement un accord avec la Namibie après avoir reconnu ses exactions.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. En Syrie, le combat entre le groupe État islamique est loin d'être fini. Telles sont les déclarations du chef des forces américaines au Moyen-Orient. Les djihadistes fuyant le dernier réduit de l'organisation terroriste à Baghouz, dans le nord-est syrien, restent largement impénitents, résolus et radicalisés, a expliqué le général Votel devant une commission du Congrès américain. Ce à quoi nous assistons, ce n'est pas la capitulation de l'État islamique, c'est une décision calculée des djihadistes pour préserver la sécurité de leur famille et conserver leur capacité en saisissant les chances qu'offrent les camps de déplacés ou en se cachant dans des zones reculées pour attendre le bon moment pour une résurgence, a-t-il ajouté.
Afghanistan, une attaque au mortier visant une cérémonie à laquelle participaient des figures politiques a fait au moins 3 morts à Kaboul, selon des sources officielles. Les précisions avec Irénée Hermanoumbo.
La cérémonie marquant le 24e anniversaire de la mort du leader chiite Hazara Abdul Ali Mazari était retransmise en direct par les télévisions afghanes quand une explosion a retenti. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Mohamed Yunus Kanouni, alors sur scène, a tenté de rassurer l'audience. Restez calme, la zone de l'explosion est éloignée de nous. Mais immédiatement, une seconde explosion plus forte a résonné, provoquant un mouvement de foule dans un concert de cris. Je demande à nos concitoyens de rester calmes. L'attaque au mortier est loin de notre rassemblement, a lancé une seconde voix au microphone, alors que des tirs d'armes automatiques étaient audibles. La retransmission en direct s'est ensuite interrompu. Heureusement, aucun obus de mortier n'a atteint le rassemblement, s'est réjoui le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi, qui avait précédemment indiqué que l'attaque avait été lancée à partir d'un immeuble proche et que la police assiégeait la zone. De sources sécuritaires, au moins 12 obus avaient été tirés, certains touchant des habitations alentour. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Selon M. Rahimi, le principal suspect a été arrêté par la police.
En France, le cardinal Philippe Barbarin a annoncé son intention de démissionner après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse. Nous faisons le point avec Yacouba Ouédraogo.
J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours, a déclaré le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Le prélat dit prendre acte de la décision du tribunal dont il va faire appel. Il a été reconnu coupable de ses silences sur les agressions pédophiles commises sur des scouts avant 1991 par le père Bernard Prénat, dont il a été prévenu par une victime en 2014. La justice reproche aux religieux d'avoir fait le choix de ne rien dire aux autorités judiciaires pour préserver l'institution à laquelle il appartient. Poursuivis en même temps que lui, les 5 autres prévenus n'ont pas été condamnés. Le tribunal a estimé que les faits ne sont pas constitués pour 4 d'entre eux et prescrits pour le dernier. Monseigneur Philippe Barbarin est le plus haut dignitaire de l'Église catholique en France, où 2 évêques ont été condamnés pour des faits similaires en 2001 et 2018. En Australie, le cardinal George Pell, conseiller du pape, a été condamné pour viol sur mineur. Et ici aux États-Unis, l'ex-cardinal Theodore McCarrick a été défroqué mi-février après des accusations d'abus sexuels.
Ici aux États-Unis, le Congrès vote sur une résolution condamnant la haine pour répondre à une polémique sur l'antisémitisme provoqué par les propos d'une élue musulmane sur le soutien américain à Israël. Ilhan Omar, seule parlementaire à porter le voile islamique et l'une des deux premières femmes musulmanes assiégées au Congrès américain, a dénoncé la semaine dernière le fait que certains lobbies et parlementaires poussaient à faire allégeance à un pays étranger.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
Le gouvernement égyptien compte acheter près de 3,6 millions de tonnes de blé chez les producteurs locaux durant la campagne 2019 qui débutera en avril. Selon la qualité, l'exécutif devrait payer environ 38 à 39 dollars par lot de 150 kg. Ecofine rapporte que pour l'Union des fermiers égyptiens, ce tarif, bien que juste et spécial, reste en dessous des attentes de 46 dollars. Le prix relativement bas pourrait conduire de nombreux producteurs à se détourner de la culture du blé ou à livrer leur récolte aux minoteries privées qui proposent des prix plus attractifs. La monnaie kényane et le shilling a atteint aujourd'hui son niveau le plus fort depuis plus de 3 ans et demi face au dollar. Ce matin, le shilling se négociait à 99,75 ou 99,95 pour 1 dollar, niveau auquel il se négociait pour la dernière fois en juillet 2015. Cette hausse est soutenue par un afflux croissant de devises fortes et une baisse de la demande d'importation. Terminons avec MTN qui annonce un désinvestissement d'1 milliard de dollars sur les 3 prochaines années qui recentrera la société sur les marchés à forte croissance du continent et du Moyen-Orient. MTN n'a pas nommé les pays qu'elle s'apprête à quitter, mais son évocation des zones à forte croissance et stable suggère qu'elle pourrait délaisser ses plus petites entreprises au Libéria, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Syrie, au Sud-Soudan et au Yémen.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Enfin un contrat pour le sélectionneur de Madagascar.
Oui, coach des Barea depuis 2017, Nicolas Dupuis avait la particularité de travailler sans contrat, ce qui ne l'a pas empêché de qualifier Madagascar pour la première CAN de son histoire cette année. Le technicien français a signé un contrat qui court jusqu'en juillet, soit jusqu'à la fin de la CAN 2019. Forcément, il y a plus de sérénité, c'est plus facile de travailler quand les choses sont saines et bien tracées, a déclaré Nicolas Dupuis.
La Tunisie, privée de Ben Youssef.
Oui, utilisé lors des 5 premières journées des éliminatoires de la CAN 2019, Fakhreddine Ben Youssef ne sera pas disponible pour la première liste du nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage. Alain Girès, blessé avec son club saoudien d'El Etifak, l'ailier ne sera pas rétabli avant la fin du mois, soit trop tard pour le match sans enjeu contre l'Iswati lors de la dernière journée des éliminatoires le 22 mars, puis pour le derby contre l'Algérie le 26 mars en match amical.
Lionel Messi, de retour en sélection d'Argentine.
Et oui, le quintuple Ballon d'Or fait son retour après 8 mois d'absence. À 3 mois du début de la Copa América au Brésil, le nom de Lionel Messi apparaît sur la liste des footballeurs convoqués pour les matchs amicaux contre le Venezuela le 22 mars à Madrid et le Maroc le 26 à Tanger. La dernière sélection de la Pulga remontait au 8e de finale du Mondial 2018, perdue contre la France 4-3 et à l'issue duquel l'attaquant du FC Barcelone s'est mis en retrait de l'équipe nationale à 31 ans. Messi rêve de remporter un grand championnat avec l'Albicéleste en dehors du titre de champion. Champion olympique avec les espoirs, Messi n'a encore rien gagné avec la sélection. Il a échoué en finale du Mondial 2014 et de Copa América en 2007, 2015 et 2016.
LeBron James a dépassé son modèle Michael Jordan en NBA.
Et lui en marquant 31 points face aux Nuggets, King James, 34 ans, a doublé Air Jordan et a cimenté un peu plus encore sa place dans l'histoire de son sport. Il est devenu avec ses 32,311 points en saison régulière, le 4e joueur le plus prolifique de NBA derrière les légendaires Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone et Kobe Bryant et devant le mythique Michael Jordan. Il lui manquait 13 points pour dépasser l'ancien joueur emblématique des Chicago Bulls des années 1990. Il ne lui a fallu qu'un quart d'heure et demi pour y parvenir. Mais LeBron James a aussi sans doute dit adieu aux playoffs 2019 après la 4e défaite de suite des Lakers, surclassée à domicile par Denver, 115-99.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Diriek et Claire Morin-Gibourg. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
En Côte d'Ivoire, le Parlement a un nouveau président, Amadou Soumaoro, ancien ministre et secrétaire général du RDR, a été élu ce jeudi en remplacement de Guillaume Soro. Une élection boycottée par plusieurs députés de l'opposition. À Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tunkara.
Amadou Soumaoro, nouveau président du Parlement ivoirien, le candidat du RHDP, la coalition au pouvoir, a obtenu 153 voix contre 3 à son adversaire du PDCI. À l'issue d'un vote boycotté par les groupes parlementaires PDCI, Vox Populi et RACI, qui entendaient ainsi dénoncer le mode de scrutin choisi pour cette élection du président du Parlement. Isidore Yapi-Kouadio, député membre du groupe parlementaire PDCI.
C'est de la mascarade. Le RHDP est en train de confisquer le pouvoir. Tous les députés du PDCI, du Rassemblement, de Vox Populi, dénoncent, parce que nous sommes 3 groupes parlementaires ensemble pour lutter contre cette sorte d'anarchie à l'intérieur de l'hémicycle.
Belmondo Dodo, député membre du RHDP.
L'Assemblée a des règles, l'Assemblée a des principes. On a toujours voté à budget multiple. Même le président démissionnaire, pardon, M. Soro Guillaume, a été voté à budget multiple parce qu'il n'y avait que 2 candidats. Et en réunion de bureau, nous avons dit, si nous avons plus de 2 candidats, nous partons pour le butin unique. Mais dès l'instant que nous n'avons que 2 candidats, nous sommes revenus au règlement de l'Assemblée. Le butin multiple, et on a toujours voté à budget multiple à l'Assemblée.
Réaction de notre parlementaire, membre du RHDP, Bema Fofana.
Vous avez vu l'ambiance qui a prévalu aujourd'hui. Amadou Soumaoro est vraiment l'émanation du groupe parlementaire RHDP. Et ce groupe parlementaire RHDP, fort de plus de 150 députés, était aujourd'hui en fait bloc. Donc la majorité des députés de Côte d'Ivoire, le plus grand groupe, a choisi son candidat qui a été élu aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison qu'on dise autre chose.
Le nouveau président du Parlement ivoirien, dans son intervention, s'est voulu rassembleur, Amadou Soumaoro.
Notre ambition est de bâtir une grande famille dans l'hémicycle, où le travail sera certes notre préoccupation constante, mais aussi et surtout où le social sera le fondement de notre action. En clair, aucun député ne devrait se sentir seul, aussi bien dans la joie que dans la peine. Je voudrais insister sur l'esprit de solidarité qui doit nous animer.
Amadou Soumaoro succède à Guillaume Soro, contraint à la démission en février dernier en raison de son refus d'adhérer au RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Congo-Brazzaville, André Okombi Salissa a été condamné hier à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. La condamnation de l'ancien ministre passé à l'opposition, André Okombi Salissa, suscite de vives réactions à Brazzaville.
Le professeur Charles Zachary Bouaou, un autre ancien ministre passé à l'opposition et qui, comme André Okombi Salissa, est membre fondateur de l'Initiative pour la démocratie au Congo, IDC, qualifie cette sentence de tragédie-comédie.
Parce que nous savons que c'est un innocent qui est condamné. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'atteinte à la sûreté de l'État, il l'a prouvé. L'atteinte à la sûreté de l'État, c'est le chaos aujourd'hui que nous vivons à cause du pouvoir en place qui n'a pas su tirer les leçons du passé et se projeter de manière plus responsable et plus démocratique.
Pour nous, tous ces procès, hier c'était Jean-Marie Michel Mokoko qui a écopé de 20 ans de travaux forcés. Aujourd'hui c'est André Okombi Salissa. Or, en réalité, le crime qu'ils ont commis, l'un et l'autre, c'est d'avoir été des candidats à l'élection présidentielle anticipée de 2016.
Dans la société civile, les langues se sont également déliées. Loin de soutenir tout porteur illégal d'armes, Roch Eloge Nzobo du Cercle pour les droits de l'homme et du développement compare ce procès à celui de l'ancien président congolais Marien Ngouabi.
Et le nombre de prisonniers politiques ne fait que s'agrandir. Aujourd'hui, maintenant, nous avons un autre prisonnier politique qui est condamné sur la base d'un procès politique. Et nonobstant toutes les observations, des avocats. Je ne voudrais pas entrer dans le débat juridique parce que, en fait, le débat juridique n'avait pas sa place dans ce procès. Quel que soit ce qui devait arriver et ce qui devait être dit, l'objectif était de condamner M. Okumbi et d'en faire un énième prisonnier politique. Et c'est ce qui est dommage pour notre pays.
Mais le juriste Christian Bouanga salue le courage du juge criminel qui a condamné un comportement délictueux, soutenant au passage un verdict qui fera école dans le pays.
Mais naturellement, écoutez, vous connaissez les drames, n'est-ce pas, qu'a connu notre pays. Il est clair que les personnes qui veulent utiliser, n'est-ce pas, la force physique, qui veulent utiliser la force des armes comme moyen de pression politique, ne sont plus la bienvenue sur notre territoire. Il y a eu un précédent pour des faits identiques pour lesquels la condamnation a été de 20 ans, le maximum prévu par la loi. Il n'y a pas de surprise particulière ou d'étonnement particulier dans la mesure où il s'agit que d'une peine prévue par la loi.
Maître Eric Yvan Ibouanga, l'un des avocats de Okumbi Salissa, a confirmé à VO Afrique que la défense a fait ce jeudi un pouvoir cassation sans réellement y croire. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire. Au Burkina Faso, le SACOL, le salon des curiosités, des conservations et des collections, veut inspirer la jeune génération. Dans le cadre du centenaire de la création de la colonie de Haute-Volta en 1919, cette exposition d'objets d'époque permet aux jeunes de mieux appréhender leur histoire et leur culture. Notre correspondant Issa Napon a pu s'y rendre.
Des archives, des outils, des spécimens de véhicules et vêtements datant des années d'indépendance, des armes de guerre de l'époque de la colonisation sont entre autres attractions de ce cinquième SACOL dont le commissaire adjoint est fier de son appropriation par les visiteurs.
Jean-Roger Kizito Batibou.
Nous sommes vraiment satisfaits parce que ce n'est pas uniquement des personnes âgées qui sont venues ici. Nous avons reçu différents établissements parmi lesquels on peut compter le PMK, puis le lycée de la jeunesse et d'autres établissements de la place qui ont fait venir des enfants pour visiter. Également le côté responsable politique, d'autres personnalités qui ont bien voulu faire le déplacement pour nous encourager et puis nous promettre, selon les moyens qu'ils ont, de nous permettre de faire le tour du Burkina.
Entre les archives, les tenues vestimentaires, les machines utilitaires des années 50 à 80, trônaient des électrophones et tourne-disques d'une autre époque que des visiteurs du jour revoient avec beaucoup d'émotion.
Moussa Joseph Draogo.
J'ai vu l'électrophone où on pouvait encore remettre des disques. Ça m'a réveillé le souvenir il y a 15-20 ans. Surtout avec Georges Ouédraogo, tous ces anciens artistes que j'ai eu à produire, Amadou Balaké, Salambéré Joseph, il fallait emprunter les trucs de la radio rurale, les Nagra.
Dehors, les voitures de collection datant pour certains de 60 ans défient le soleil et le vent dans la cour du musée national. C'est ici que le promoteur a exprimé sa satisfaction de contribuer à l'éducation des jeunes en vue de restaurer l'histoire du pays des hommes intègres. L'expert culturel Bouré Madjiga.
Depuis 2011, nous nous battons pour aussi créer et renforcer un partenariat afin que ceux qui veulent bien protéger leurs biens, qu'ils puissent confier cela à ces musées. Donc nous jouons un rôle de facilitateur et puis pour la jeunesse, qu'elle soit scolaire ou étudiantine, c'est l'occasion qu'ils puissent voir tout ce qu'ils apprennent à l'école.
Les décrets officiels de l'administration coloniale de l'Afrique occidentale française AOF sur les soubresauts de la colonie de Haute-Volta figurent en bonne place dans ce salon. Après Ouagadougou, cette exposition se tiendra ensuite dans plusieurs autres villes du Burkina Faso, entre autres Bobo-Dioulasso, Dédougou et Tenkodougou. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif « À votre avis » du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com.
À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
À la veille de la Journée internationale de la femme, nous continuons notre série dédiée aux femmes sur le continent. Aujourd'hui, nous allons au Tchad, où nombre de femmes se battent quotidiennement pour leur propre survie et celle de leur famille, souvent dans des conditions plus difficiles que celles rencontrées par les hommes. Notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar, a rencontré quelques-unes de ces femmes courageuses.
Les femmes brisent de plus en plus les pesanteurs socio-culturels en exerçant avec conviction certaines professions longtemps réservées aux hommes. C'est le cas de Madame Mamti Nicole, chef de service de la morgue de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Elle est l'unique femme tchadienne à travailler dans ce secteur depuis 7 ans. Mariée puis divorcée à cause de son travail, elle dit avoir exercé cette profession avec passion.
Même à 1h, 2h, les gens amènent les corps. Dès qu'ils toquent à la porte, je me lève, je prends le corps, je décharge, je libère les parents. À seul, je lave, je les transporte. À seul, je l'habille, à seul. Je le remets dans sa chambre, même la mise à bière, je fais assez. Beaucoup de gens ne mangent pas avec moi, soit disant que mon métier est sale. D'autres ne me salent pas aussi, mais j'écoute les femmes qui me critiquent. Mais je les remercie, pour moi, ils font ma publicité.
Dans le milieu judiciaire, une autre femme fait parler d'elle. Il s'agit de Tchamba Amboussidi. Après ses études en droit, elle a décidé de faire carrière dans la profession d'huissier de justice. Après un stage dans un bureau d'études d'huissier titulaire de charge en 2013, en mars 2018, elle est nommée huissier titulaire. Pour elle, il faut avoir le sens de la responsabilité afin de minimiser les risques.
Il y a toujours des difficultés parce que quand on amorce par exemple une exécution, il peut y avoir des interventions de la part de nos autorités. Et actuellement, je suis en face d'une de ces difficultés. On me demande toujours des comptes à rendre et je me suis dit non. Tel que c'est parti déjà, je ne dois pas me taire. Donc moi, j'encourage vraiment les femmes à se battre. Qu'elles disent oui, nous sommes capables d'affronter les difficultés, de nous battre pour notre survie.
Femme battante, il y a aussi une autre à la télévision nationale, Madame Kalna Hamboussidi. Elle est la seule femme qui exerce depuis 5 ans environ comme cadreuse dans ce média public. Elle reconnaît que le métier est pénible, mais pas impossible pour les femmes.
Le fait de se tenir debout pendant des heures, puis être en reportage tout le temps, des fois je rentre tard la nuit, et c'est pas vraiment bon pour une femme. Certains métiers, c'est pas seulement fait pour les hommes. Il suffit de s'y mettre et on s'adapte et puis ça va aller.
Parmi les femmes tchadiennes qui se battent, il y a celles qui pratiquent les activités génératrices de revenus avec zéro capital. Madame Eve Hassan, mariée, mère de 4 enfants, prend le poisson à crédit avec le pêcheur pour les revendre.
Je promène alors le poisson au bar. Il y avait un gars à acheter le poisson avec moi. Il a fui avec mon argent tout. Parfois, les gens même t'insultent. C'est avec ces poissons-là que j'ai nourri mes enfants avec. Parfois, tu peux trouver même 2 000, voire 3 000 même. C'est le bénéfice là que nous, les femmes, là, on met le pari. On paye le loyer avec. Et quoi même, j'étais avec l'argent du poisson.
André Kodmajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. À la console, Thomas Blandet. À la présentation, Morgane Guériec et Claire Morin-Gibourg.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.